Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé, tout de suite, nous déhoussons les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Jake Lamar.
Je suis Karim Madani.
Ping pong. La culture sans limite. Ping pong.
Ce soir, dans Ping Pong, deux étoiles noires, pétries de certitudes et de contradictions, et qui, riches de leurs ambiguïtés, changent notre perception de la littérature et de la musique.
Avec le romancier et dramaturge américain Jake Lamar, new-yorkais de naissance du côté du Bronx et parisien d'adoption du côté de Montmartre, dans un colloque sur la littérature afro-américaine organisé ces jours-ci, il revient sur la figure de James Baldwin qui proclamait « Aimez ce que j'écris et non ce que je suis ».
Et avec l'écrivain et spécialiste des musiques urbaines Karim Madani qui dissèque la vie du rappeur mi-homme, mi-hologramme Kanye West dans une biographie pleine de beats et de fourrures publiée chez Don Quichotte.
Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec vous, Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le conflit des carburants se durcit. Selon la CGT, les 8 raffineries françaises sont désormais en grève et de nombreux dépôts pétroliers sont bloqués. Ce matin, les forces de l'ordre ont évacué le site de Fos-sur-Mer. Emmanuel Valls promet d'autres opérations d'évacuation. En attendant, les automobilistes se ruent dans les stations-service. D'après le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis, 20% des 12 000 stations françaises sont en situation de pénurie. Un chiffre qui pourrait augmenter dans les prochaines heures avec la poursuite du mouvement. La CGT entend utiliser l'arme du carburant pour forcer le gouvernement à retirer la loi travail, retrait que n'envisage aucunement l'exécutif. Invité de la Fabrique de l'Histoire ce matin sur France Culture, François Hollande a dénoncé une stratégie de blocage orchestrée par une minorité. Nous reviendrons sur ce bras de fer à 22h avec notre invité, l'historien Stéphane Sirot, spécialiste du syndicalisme. En Belgique aussi, le climat social est tendu. Environ 60 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles contre les réformes libérales du gouvernement. Non à la semaine des 45 heures, pas touche à nos pensions, non à la flexibilité. Voilà quelques-uns des slogans scandés par les manifestants dans leur collimateur. Le Premier ministre belge Charles Michel à la tête d'une coalition de centre-droit dominée par les partis flamands. Le président turc menace à nouveau l'Europe. Recep Tayyip Erdogan demandera à son parlement de bloquer l'accord UE-Turquie sur les migrants s'il n'obtient pas l'exemption de visa d'ici la fin juin. L'accord négocié par Angela Merkel a pour objectif de limiter les flux migratoires vers l'Europe. En échange, les Turcs exigent la fin des visas pour se rendre dans un pays de l'Union européenne. Plusieurs pays européens y sont hostiles en raison des atteintes aux droits de l'homme en Turquie. C'est peut-être un tournant dans la lutte contre l'État islamique. En Syrie, l'alliance arabo-kurde présente dans le nord du pays a lancé aujourd'hui une vaste offensive sur Raqqa. Raqqa, c'est le fief de Daesh dans le pays, la capitale autoproclamée du califat djihadiste. Plusieurs milliers de combattants seraient engagés dans cette offensive, soutenue par les raids aériens de la coalition occidentale. En Irak aussi, l'État islamique est sur la défensive. Les troupes irakiennes ont entamé hier la reconquête de la ville de Fallujah, à l'ouest de Bagdad. La météo demain, des nuages et des averses sur une large moitié ouest du pays, de la Bretagne à l'Aquitaine. Partout ailleurs, les éclaircies seront majoritaires. Les températures maximales toujours un peu justes pour la saison. De 15 à 20 degrés demain après-midi au nord de la Loire, 20 à 26 au sud. 19h04 sur France Culture, nous accueillons Zoé Sfez, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
À 19h30, le journal de la culture, Zoé.
Et nous reviendrons dans le dossier du jour sur cette journée de mobilisation, cette soirée de mobilisation pour le collectif Décolonisons les Arts en France, qui a manifesté devant la cérémonie des Molières pour dénoncer une cérémonie Molière complètement monochrome, puisqu'il n'y avait qu'une seule nominée racisée, c'est le vocabulaire du collectif, on y reviendra dans notre dossier.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Si le jazzman Archie Shepp met en musique sur ce disque dont nous écoutons un extrait, le blues d'Attica, prison où nombre de Noirs américains ont vécu l'enfer de l'enfermement, lui, s'est fait connaître en romançant son bourgeois blues. Lui, l'écrivain issu de la classe moyenne et diplômé de Harvard, qui a rejoint il y a 20 ans maintenant ses frères d'exil, Richard Wright, Chester Himes et James Baldwin à Paris, sur la rive noire de la Seine. Et le voici qui, après avoir signé, comme Himes, des romans noirs, mais chez Rivage, rend hommage à ces trois hommes, et singulièrement à Jimmy Baldwin, dans une pièce et une participation qu'il offre à l'Université américaine de Paris, à la conférence internationale James Baldwin, du 26 au 28 mai. Il s'agit bien sûr de Jake Lamar.
Lui parle aussi de la prison d'Attila dans son dernier livre consacré à celui qu'il appelle la première rockstar noire contemporaine. 78 kilos de rêve américain, manteau de fourrure compris. Le rappeur Kanye West, lui, il est journaliste français à l'américaine, writer. Il tresse toujours derrière ses portraits de musiciens urbains, selon l'étiquette consacrée, l'histoire de l'Amérique et ses démons raciaux. Il n'en fera pas autrement lorsqu'il consacre un livre au réalisateur engagé Spike Lee, American Urban Story. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un rappeur sans street credibility, mais élevé entre les livres de sa mère et la culture Black Power et Black Panther de son père, Kanye West. C'est publié chez Don Quichotte. Et l'écrivain plumitif journaliste en question, c'est Karim Madani.
Là, nous sommes dans les vapeurs, le steam d'Archie Shepp sur Attica Blues, donc cet album militant. Et ce soir, en votre compagnie, Karim Madani et Jake Lamar, on parle de deux black stars, de deux étoiles noires qui sont célébrées dans le monde entier, vues des millions de fois sur les internets pour ce qui est des clips de rap de Kanye West ou de pop mondialisé. On y reviendra avec vous, Karim Madani. Et James Baldwin, qui aujourd'hui donc est célébré, Jake Lamar, dans ce colloque international à l'Université américaine de Paris et aussi à l'ambassade. Vous donnerez une lecture de votre pièce Brothers in Exile, frères en exil, à guichet fermé. Je crois qu'il faut montrer patte blanche et son passeport pour pouvoir entrer. C'est donc à partir de demain et jusqu'à samedi inclus. D'un côté, Karim Madani rappelle que s'il est né dans la classe moyenne, Kanye West, ce rappeur, est passé des écoles publiques de Chicago au manoir californien où il mène grand train aujourd'hui. Quant à lui, James Baldwin, il est né dans la misère à Harlem. Ensuite, il est allé à Greenwich Village, où il a côtoyé la fine fleur de l'intelligentsia artistique américaine. Et puis aujourd'hui, donc, à l'université américaine, on célèbre son travail. Kanye West, ce rappeur, se veut un artiste contemporain, version Jeff Koons. Mais alors comment James Baldwin se voyait-il, selon vous ?
Comment James Baldwin se voyait lui-même James Baldwin était un artiste suprême et en fait il a passé beaucoup de temps en France. James Baldwin est mort à Saint-Paul-de-Vence dans le sud. Il a voyagé en France pour la première fois en 49 parce que il a trouvé le racisme quotidien aux États-Unis, même à New York à l'époque, insupportable. Et c'était pendant ces années en Europe où il a découvert sa voix littéraire grâce à la liberté qu'il a trouvée ici. Il est retourné souvent aux États-Unis et pendant les années 60, il est devenu une figure très importante dans le mouvement pour le droit civique. Le livre qui l'a rendu célèbre finalement, enfin, en 63, était « The Fire Next Time »,« La prochaine fois, le feu », qui était une polémique, hein, franchement, mais avec une très belle écriture sur la place des Noirs dans la société américaine. Mais il est resté très frustré avec le racisme aux États-Unis pendant le reste de sa vie. Il est mort en Saint-Paul-de-Vence en 87.
Alors c'est vrai qu'il le disait, James Baldwin, qu'il souffrait d'une triple appartenance discriminante, noir, homosexuel, exilé. J'ai cité cette phrase de lui, hein, « Aimer ce que j'écris et non ce que je suis », ça aurait pu être une phrase de Kanye West, hein, « Aimer ce que je produis et non ce que je suis ».
don't get ran at my Catholics. Here comes a conservative Baptist, claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. 4 in the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's an omen. I keep it 300, like the Romans. 300 bitches, we're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it.
Kanye West, voilà ce que c'est si vous en doutiez, si vous vous demandez à quoi ça pouvait ressembler. Et les titres de Kanye West sont tous assez différents. On va y revenir avec vous, Karim Madani. On s'intéresse à la figure de ce rappeur dans votre roman, qui est pas du tout une biographie typique. On va dire qu'on pourrait lire comme ça d'un chroniqueur musical spécialisé. C'est un roman haletant. Ça s'ouvre sur une scène terrible de Kanye West qui s'en prend à Taylor Swift lors d'une cérémonie, parce que le clip de Beyoncé n'a pas gagné le prix du meilleur clip, et que c'est
figure de la musique populaire américaine.
Voilà, c'est Taylor Swift, une chanteuse populaire américaine dite écervelée, qui remporte le prix, et c'est trop, vous dites. Kanye West bouillonne parce qu'il en a marre, et ces musiciens noirs qui restent à la soute, ça suffit. Voilà pour la scène inaugurale. Mais Kanye West, vous lui avez donné donc tout ce relief qui rend ce livre haletant, qui est son parcours. Et finalement, sa plus grande difficulté dans la vie de l'industrie musicale, c'est de pas avoir une street crédibilité, comme on dit, c'est-à-dire un passé de rappeur comme son grand frère Jay-Z. Pouvez-vous nous raconter la vie de ce Kanye West qu'on découvre, qui est donc celui d'un fils d'une prof de littérature américaine et d'un père Black Panther?
Bah, du coup, en fait, c'est vrai que Kanye, je pense, il me semble que James Baldwin avait été plus humble, était beaucoup plus humble que Kanye. Je crois qu'il a jamais fait de déclaration fracassante comme Kanye en a fait. Mais c'est intéressant, parce qu'il y a quand même des passerelles à acheter, en fait, entre les deux artistes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. En tout cas, des trucs à faire, notamment sur Paris, sur espèce d'exil aussi, plus symbolique chez lui, le grand drame de Kanye, en fait, c'est que il est arrivé dans les années 90, à une époque où sur la côte est, en tout cas, même sur la côte ouest. C'était le gangsta rap qui était vraiment le joueur dominant. Et lui, en fait, avait cette espèce de gamin un peu décalé, qui était pas très bien dans sa peau, qui s'habillait toujours en rose, et qui était un peu excentrique dans une école, dans une école de la banlieue de Chicago, qui était pas très, je veux dire, c'était pas une école du ghetto du tout, mais, et donc, qui a été dont les parents étaient séparés, dont la mère était prof de littérature à la fac de Chicago, et qui a toujours eu un peu le cul entre deux chaises, hein, qui a souffert de problèmes d'identité, un peu d'orientation sexuelle aussi, plus ou moins, et du coup
il s'est engagé contre l'homophobie dans le milieu du rap, ouais, à un moment où c'était pas
le
sujet.
Exactement, ouais. Et du coup, il y a toujours eu ce complexe chez lui de pas appartenir, de pas être né dans le ghetto, de pas être un rappeur du Bronx ou de Brooklyn ou de Compton ou Watts. Il y a toujours eu ce problème, ou même de Southside Chicago, parce qu'il lui vient vraiment des suburbs, du coup, et il y a ce problème. Et en même temps, il arrive à signer sur un des labels à l'époque, Rockefeller, qui est le label de gangster par excellence, où il y a que des reprises de justice.
Ça parle essentiellement de meurtre, et je n'ose pas dire de bitches, hein,
ouais,
de pétasses dans les textes.
Ouais, de flingues, de salopes et de bijoux, quoi, pour résumer un peu.
Voilà, je vous le laisse.
La sainte trinité du truc, quoi.
Ouais. Du gangsta. Et donc, juste la figure de Kanye West, vous nous le faites aussi, pas enfant de cœur, mais quand même, qui a grandi dans les fraternités, et qui a grandi au milieu des livres, qui a avalé toute la bibliothèque. Enfin, il n'a pas du tout ce côté niveau CM2, comme vous le dites, de certains rappeurs.
Ah non, complètement. Et d'ailleurs, le premier rendez-vous qui a réussi à décrocher dans ce label Rockefeller, qui est dirigé par Jay-Z, qui est lui un ancien vendeur de crack, un ancien dealer de crack à Brooklyn, il arrive avec des mocassins Gucci et avec un pull rose et une espèce de... Enfin, il est obsédé par Ralph Lauren. Alors, il collectionne les pièces où il y a des nounours, donc qui viennent vraiment de cette culture universitaire. Et du coup, les mecs le prennent pas au sérieux, et à un moment, Damon Dash, qui est un associé de Jay-Z, lui demande, mais qui est ce mec? Enfin, quel est ce bouffon? Je veux dire, on peut pas signer ce mec. Par contre, ils l'ont utilisé comme producteur, parce que c'est quelqu'un quand même qui a relancé la carrière de Jay-Z.
Il fabrique la musique,
Complètement, tout à fait, c'est un beatmaker. À un moment, Jay-Z, je pense qu'il perdait beaucoup, musicalement, il a énormément perdu, d'influence, et Kanye, en fait, lui a permis de revenir au top, en fait, grâce à un album qui s'appelle The Blueprint. Et c'est quand même un compositeur qui a un peu révolutionné le genre.
On va y revenir, ouais, sur l'aspect génie musical, ouais, de Kanye West.
Et pour gagner en crédibilité, je crois que vous y insistez, Karim Madani, Kanye West a dû devenir cosmique comme d'autres artistes noirs américains pour arracher la photo anthropométrique qui leur colle à la peau. Et ce qu'a choisi James Baldwin pour devenir peut-être cosmique, c'est en tout cas de traverser l'Atlantique.
Il n'y avait pas un but précis quand je quittais le pays, sauf de quitter le pays. Mm. Pour aller n'importe où. À ce moment-là, je voulais quitter les États-Unis et me semblait pour toujours, pour respirer, pour essayer de devenir un écrivain, vraiment, un vrai écrivain, et pour devenir moi-même.
Mais en tout cas, vous êtes resté à Paris de nombreuses années.
Mais je suis resté à Paris pendant presque 9 ans.
Qu'est-ce qui vous poussait à y rester?
D'abord, le fait de choses assez bizarres. Tout le monde dit que les Français sont très, très froids, ce qui est vrai. Et assez chauvins, ça c'est vrai aussi. Mais c'est ça qu'il me fallut. On me laisse tranquille, qu'on me laisse mourir ou vivre. Comme, si je pouvais vivre, tant mieux. Si je ne pouvais pas, tant pis.
Mais en 1957, vient pour vous la fin de cette période de retraite en vous-même, en quelque sorte, de cette période de solitude. La France est à ce moment-là en pleine guerre d'Algérie. Et je crois que vous avez dit à un journaliste américain qu'il est simplement arrivé un jour où vous ne pouviez plus rester assis à Paris en train de parler de l'Amérique.
Ce qui est arrivé, c'est que j'ai... au début, évidemment, j'habitais à Paris dans la misère. Ça veut dire que j'habitais avec les Algériens, avec les Noirs, dans les rues, dans les hôtels plus ou moins horribles. Finalement, j'en avais marre de rester assis parce que j'avais peur de rentrer aux États-Unis. Et j'en avais marre de rester ici lorsque les Algériens étaient en train de souffrir, et les Français aussi. Et donc, au lieu d'expliquer l'Amérique et le problème noir en Amérique, il me semblait mieux d'aller là-bas, de revenir là-bas.
Malgré votre peur.
Surtout parce que j'avais peur. Et c'est pour ça que j'ai quitté Paris pour aller directement dans le sud, à Little Rock, au fait.
James Baldwin au micro de France Culture, déjà en 1970, qui parle donc de son expérience de l'exil et de son désir mêlé de peur de retourner aux États-Unis, où il va devenir, en retournant régulièrement aux États-Unis, cette figure, vous le disiez, Jake Lamar, de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Ce qui, on pourrait parler de cet exil, mais là, à l'instant, avec ce que raconte Karim Madani à propos du rappeur Kanye West, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un point commun entre ces deux hommes, avec les générations qui les séparent, ce sont leurs contradictions, mais aussi leurs mues, parce que Kanye West ne cesse de se réinventer, de se transformer, de transformer sa musique et son apparence d'album en album. Et j'ai l'impression que James Baldwin, qui voulait absolument pas être un auteur de romans de protestation, vous le faites valoir d'ailleurs dans la pièce que vous consacrez à ses relations avec Richard Wright et Chester Himes, Jake Lamar, il est devenu, alors est-ce que c'est malgré lui, ce héros, ce porte-étendard de la lutte politique?
Oui, exactement. Il était un écrivain vraiment fascinant. Et vous avez cité Richard Wright. Richard Wright était le premier auteur afro-américain qui est devenu vraiment célèbre et vraiment riche. Il a publié un roman qui s'appelle « Un enfant du pays » en français, « Native Son » en anglais, publié en 1940, qui était un phénomène. 5 ans plus tard, il a publié Black Boy, un récit autobiographique qui a parlé de son enfance dans le Mississippi. James Baldwin était un jeune auteur de 21 ans, pas encore publié. Il a cherché Richard Wright à New York et il a dit presque « prends-moi en tant que protégé hein? ». Et Richard Wright était très généreux avec James Baldwin. Richard Wright s'est installé à Paris en 47-48 avec sa famille blanche américaine et leur fille, parce que même en tant qu'un auteur riche et célèbre, il a trouvé le racisme à New York insupportable. James Baldwin a suivi Richard Wright à Paris. Et James Baldwin a publié 2 essais où il a critiqué le genre du roman de protestation, de la littérature de protestation. Et c'était un genre très lié avec Richard Wright. Et en fait, avec tous les auteurs noirs américains jusque les années 40, il y avait toujours une idée qu'un auteur noir doive écrire sur la politique noire, sur la lutte pour la liberté. Chaque livre était une espèce de polémique. James Baldwin a confronté cette idée Et je pense que Baldwin s'est voyé en tant qu'un artiste et voulait dire la différence entre moi et Richard Wright et que moi, je suis une vraie figure littéraire. Et ça a causé une rivalité vraiment dure entre les deux. Et au centre de ma pièce de théâtre est une engueulade entre Richard Wright et James Baldwin qui se déroulait au café Les Deux Mégots, en mai 1953. C'était des heures et des heures des accusations, des trahisons, etc. entre ces deux auteurs. Mais j'ai découvert, je savais qu'il y avait cette engueulade depuis mes années à l'université. Mais c'était seulement quand je suis arrivé en France que j'ai découvert Chester Himes, que j'ai appris que Chester Himes était à la table au Café de Mago avec Wright et Baldwin pendant toutes les heures de cette engueulade. Et tous les trois auteurs ont écrit de ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette nuit-là, chacun a offert une version très différente.
On se croirait dans les embrouilles, ce qu'on peut appeler le teaming entre Jay-Z, par exemple, et Kanye West.
Exactement. Et justement, dans cette atmosphère de rappeurs qui vont comme ça se combattre, on va dire, sur différents terrains, il n'y a pas forcément un qui est l'engagé, celui qui défend la cause des Noirs américains et l'autre qui serait plus artiste et littéraire. Mais d'une certaine manière, il y a quand même effectivement ce conflit entre Jay-Z et Kanye West. Mais Kanye West, vous soulignez, et c'est peut-être pour moi le James Baldwin de cette histoire, vous soulignez, Karim Adali, dans le livre, que son talent, c'est d'arriver à amener, on va dire, des histoires personnelles, des histoires amoureuses, sa vie lyrique intérieure, mêlée avec la grande histoire de la civilisation américaine. Son génie, c'est ça pour vous, entre autres. C'est, comme vous le dites, de l'enrober, cette civilisation américaine, et ses démons d'une couche de pop saveur guimauve. Comment?
Ouais, c'est un peu ça. Enfin, mais c'est marrant parce que ce que tu dis sur les débuts de Baldwin quand il est venu à Paris, parce que moi j'ai lu un bouquin de lui récemment qui s'appelait Retour dans l'œil du cyclone. Et du coup, il raconte un peu quand il était à Paris. C'est vrai que dans des hôtels, il faisait insalubre, il avait froid tout le temps. Alors que Kanye, quand il vient à Paris, il descend au Meurice, dans des palaces avec Jay-Z. Ils avaient fait un morceau qui s'appelait Niggas in Paris, donc Négro à Paris. Et du coup, ils entretiennent avec Paris un rapport autour du luxe qui est assez particulier, donc c'est assez marrant cette la relation que autant que Baldwin pouvait vraiment voir la ville de manière très dure, autant eux Paris c'est un peu une espèce de cours de récré parfois.
Oui, ils se sont retrouvés et effectivement ils ont eu quelques activités ensemble festives, dont ouais, la naissance de ce titre Niggas in Paris.
Tout à fait, exactement. Ouais. Et c'est vrai que Kanye, je pense que là c'est un peu comme on va dire que Jay-Z pourrait être Richard Wright. Et
mais oui.
C'est ça. Je pense que c'est intéressant. Et je crois que Jay-Z était encore trop concentré sur le fait de signer des gangsters rappeurs et qu'il fallait toujours raconter les mêmes histoires. Mais lui, je crois qu'il voulait aussi ramener son histoire d'étudiant, de fraternité, de il était étudiant en art. Sa copine l'a introduit dans le milieu des fraternités. Donc il est arrivé avec des symboles que eux ne comprenaient pas. Et du coup, ils l'ont un peu pris comme une espèce d'extraterrestre. Mais il a aussi, effectivement, de son point de vue, je pense que ce qu'ils défendent, à mon avis, c'est pas très, au final, des fois, à la fin de la journée, je pense que Kanye et Jay-Z défendaient surtout leur compte en banque. Parce que c'est très américain aussi, très pragmatique. C'est qu'ils voulaient aussi gagner beaucoup d'argent. Mais à la fois, la contradiction qu'il a, c'est que son père est un Black Panther. Il le prenait tous les étés. Et pendant tous les étés, il le ramenait dans des quartiers. Il disait ça, c'est un quartier qui s'embourgeoise. Alors là, les Blancs ont acheté de l'immobilier parce qu'ils veulent nous virer. Et du coup, il a une espèce de conscience politique comme Lawrence Fishburne dans Boys in the Hood, dit à son fils. C'est exactement ça.
Il y a un grand film des années 90 sur la situation des Noirs américains.
Tout à fait. Et de l'autre côté, le mec met 20 000 dollars dans des sacs Gucci, Louis Vuitton. C'est le premier rappeur parce qu'on appelle ça un backpacker parce que les mecs rappaient avec des sacs à dos. Mais avec des sacs à dos Eastpak, Jansport, comme tout le monde. Sauf que lui a décidé un jour, je vais rapper avec un sac à dos Louis Vuitton, ce qui est quand même, qui a semblé une aberration à beaucoup de gens. Et du coup, il a lancé aussi ce truc autour du luxe qui peut être aberrant. Donc il est vraiment, il est nourri de contradictions. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit, je regarde la télé, je voyais Katrina, je voyais des mecs se battre pour des bouteilles d'eau. Et en même temps, il disait, il avait des chaussures, 5-6 paires de chaussures à 7 000 $ pièce, il savait pas laquelle mettre. Et il est conscient de ses contradictions, il en fait des chansons. Et je pense que, ouais.
En cela, vous le comparez à Frantz Fanon. Vous dites, comme Édouard Glisson le disait de Frantz Fanon, il réussit à toucher tactilement et affectivement la misère des Noirs, la contradiction entre cette misère et ce consumérisme fou qui, comme vous le dites dans votre livre, Karim Adani, pourrait venir aussi d'une culture des années 20 et d'un comportement à ce moment-là. C'est-à-dire que Kanye West, il touche ce que Jay-Z, justement, appelle parfois l'idée qu'il y a à l'intérieur et que les autres rappeurs noirs ne voulaient pas raconter.
Ouais, c'est un peu ça, parce qu'il a fait un de ses morceaux les plus connus avec, qui s'appelait All Falls Down. Et justement, il raconte l'histoire d'une femme noire américaine. En fait, il dépense tout son argent dans des fringues, des sacs. Et en fait, et du coup, sans faire de psychanalyse de bazar, il explique quand même qu'il essaie de masquer quelque chose de, effectivement, de hideux à l'intérieur d'elle-même, quelque chose de vide, en tout cas, avec tout ça. Il lui-même dit, en fait, que quand il a signé son premier album, il avait pas fini de payer les traites d'une voiture, qu'il allait acheter une chaîne chez Jacob, le joaillier, à New York, à $25,000. Alors qu'on lui poursuivait encore pour des traites de voitures. Et en même temps, en ce sens-là, je pense que c'est un mec qui se met à nu. C'est un des premiers rappeurs qui dit pas, j'ai un compte en banque hyper blindé, j'ai 5 femmes et 5 bagnoles. Il dit, ouais, moi, j'ai des traites j'ai pas payé ma bagnole, mais je vais chez Jacob et j'achète un... Et c'est très, à la fois pathétique, mais en même temps, ce qui le rend très humain. C'est cet artiste.
Jay Clamart, on va pas parler de la garde-robe de James Baldwin, parce que c'est plutôt pantalon de velours côtelé et pull marin, je crois, tel que vous le décrivez, en tout cas dans les didascalies de votre pièce Brothers in Exile. En revanche, parlons de sa langue, puisqu'on parle volontiers de la langue, des rimes, du style des rappeurs, pour ce qui est de cet auteur, de ce grand écrivain qui est James Baldwin. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait décrire sa langue? Il y a des essayistes qui parlent d'une langue qui n'est pas une langue militante, d'une langue discursive, mais plutôt d'une langue qui transforme le discours en expérience sensible. On serait là aussi dans la mise à nu, c'est quelque chose qui...
Et c'est la langue de l'Église. Hein? Et donc, il faut rappeler toujours que James Baldwin a grandi à Harlem, le fils d'un pasteur, le chrétienisme intégriste était son enfance, et il est devenu pasteur lui-même, un prédicateur hein, dans les coins de rues de Harlem.
À peine adolescent, dit-on.
Oui, en tant qu'adolescent, oui. Et il était surdoué en tant que prêcheur. Et il a suivi ce chemin jusqu'à l'âge de 17, 18 ans où il a vraiment embrassé la littérature. Il était donc, il y a le côté de Baldwin, pasteur noir, fire and brimstone, plein de passion pour Jésus-Christ. Et l'autre côté de Baldwin, qui était un accro de Henry James. Henry James était son romancier préféré, un style très littéraire, très florissant. Et il est, sur le côté style, il est un mélange des deux. Son message social est similaire du message de Martin Luther King. Hein? C'est pour l'égalité, l'amour entre les groupes. Il était aussi un ami de Malcolm X, il faut dire. Mais en 68, les jeunes militants du mouvement Black Power, ils ont tourné contre James Baldwin. Et dans la même façon que Baldwin a attaqué Richard Wright plusieurs années avant, James Baldwin était attaqué par Eldridge Cleaver, qui était un militant et un auteur, et par des autres jeunes afro-américains qui considéraient Baldwin en tant qu'un oncle Tom.
Alors là, on est sur la vie de James Baldwin. Vous avez vu qu'on avait essayé de tracer des échos avec celle de Kanye West, toute proportion gardiste, hein, à
c'est
le préciser
le même style, hein.
Pour les auditeurs. Hein, c'est pas la même langue, la langue de Kanye West et celle de James Baldwin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de résonance. Évidemment, on pourrait reprendre aussi cette résonance religieuse chez Kanye West, Karim Madani, mais je sais que dans votre livre, vous êtes concentré sur des analyses aussi d'événements médiatiques. C'est-à-dire que c'est en regardant les prestations de Kanye West à la télévision qu'il vit dans un véritable trou Man Show. C'est vrai que vous arrivez aussi à nous emmener dans sa tête, dans ses pensées. Est-ce que vous accepteriez pour nous d'écouter une séquence? C'était jeudi dernier chez Hélène DeGeneres et de la décrypter ensuite.
D'accord.
J'ai des idées qui peuvent améliorer l'existence humaine dans les 100 prochaines années. Je m'intéresse aux gens. Je me préoccupe de mon père qui, il y a encore 5 ans, vivait dans des refuges pour sans-abri alors qu'il était diplômé en psychologie. Ma mère a été la première femme noire à tenir une chaire au département d'anglais de l'Université de Chicago. J'ai été élevé pour réussir, pour faire la différence. Et je n'ai pas pris les Oscars à la légère.
You get your night. Go ahead. Chris Rock's gonna do it.
C'est ta soirée. Vas-y. Chris Rock va le faire.
You've been blocked.
C'est ça. Parle donc de toutes ces fois où on t'a empêché de briller. Je ne l'ai pas prise à la légère. Ce n'est pas une blague, comme l'a dit Rakim. Ce n'est pas une blague.
Are you connecting?
Tu captes? Picasso est mort. Steve Jobs est mort. Walt Disney est mort. Nommez quelqu'un de vivant dans la même veine qu'eux. Ne me demandez pas d'être aimable. On a 100 ans à vivre ici. Et on est une seule et unique race, la race humaine. Une simple civilisation. On est complètement insignifiant dans l'existence de l'univers. Et on essaye constamment de se rabaisser les uns les autres, au lieu de faire des choses pour s'entraider. C'est là où je veux en venir. Je suis désolé, désolé de vous montrer la réalité des choses à une heure de grande écoute.
I'm sorry daytime television, I'm sorry for the realness. C'est la dernière phrase de Kanye West, donc dans le show d'Hélène DeGeneres à la télévision américaine. Sorry for the realness, c'est quelque chose qu'on peut tenir comme clé dans la pensée de Kanye West. Karim Madani, comment vous décryptez cette séquence? Parce qu'il a tendance, c'est vrai, à être tellement lucide que ça lui cause énormément d'ennui, mais on prend ça pour une sorte d'acte démiurge, mais en fait, c'est peut-être une vraie pensée.
En fait, c'est un mélange, c'est un savant mélange de, à la fois de bouffonnerie, et de mégalomanie, un peu à la George Clinton, à la Sonra, des gars comme ça.
Et, musicien ouais. Nord-américain.
Et en même temps, des propos quand même très lucides sur, sur la situation à la fois, dans sa position, lui, l'artiste aux États-Unis, les Noirs aux États-Unis, très très lucides. D'ailleurs, ce qu'il avait dit sur Katrina était très très juste.
C'était que George Bush fils n'en avait rien à faire des Noirs aux États-Unis au moment voilà, où les digues très légères d'ailleurs avaient sauté et les aides ne venaient pas.
Il avait dit, si vous voyez des familles blanches comment dire, approcher d'un supermarché, c'est qu'elles ont sûrement besoin de nourriture. Si vous voyez des familles noires, c'est sûrement des pillards. Et c'est vrai qu'il avait tout dit, tout, et ça c'était vrai, parce que c'était, enfin je veux dire du coup, et en même temps il y a un côté, en même temps tout ça, comme le côté Truman Show, c'est, en même temps tout ça est scénarisé. Enfin, tout ça, c'est presque une scène de film, là, ce qu'on vient d'entendre.
Alors, si c'est presque. Ah, c'est théâtral.
C'est super théâtral. Tout ça est scénarisé, tout ça est, et en même temps, le show continue à chaque fois. C'est-à-dire que c'est filmé en permanence, et le mec, c'est des punchlines en permanence, c'est des figures de style en permanence. Parfois, peu importe, ce qui n'a pas de sens. L'important, c'est la forme. Et c'est aussi souvent dans le hip-hop, dans le jazz. Ils étaient aussi beaucoup dans la forme, par rapport au fond. Finalement, ils privilégient aussi beaucoup la forme, parce que c'est aussi, il y a un rappeur qui, des années 90 qui s'appelait Lord Finesse et qui disait, peu importe, finalement, ce que tu dis, c'est pas très important, c'est la manière dont tu le dis. C'est le swing, comment c'est percussif, comment c'est amené. C'est peut-être plus intéressant des fois de ce qu'on dit vraiment. Et c'est pour ça que, enfin, je veux dire, on parlait de la littérature militante où, effectivement, la littérature militante, ça peut être aussi très chiant. Et un bouquin qui n'est pas du tout militant, s'il est écrit d'une certaine manière ou comme une musique, avec un certain swing, peut-être passionnant. Donc, du coup, c'est aussi, il est, mais par contre, sur cet extrait-là, il est, je pense, c'est du cinéma. Mais en même temps, très lucide sur le fond. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui s'excuse, ou peut-être ne s'excuse pas, de vous présenter la réalité dans toute son étendue de l'actualité culturelle.
À suivre, Kanye West, toujours plus de realness, non? Et surtout, un album Yeezus, le dernier en date, qui sera décrypté aussi avec Karim Madani, notre invité, et Jake Lamar, pour reparler de James Baldwin.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Zoé Svez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir messieurs, bonsoir à
Zoé. Zoé, ce soir dans votre dossier, vous revenez sur la cérémonie des Molières d'hier soir. Elle avait lieu aux Folies Bergères à Paris et c'est Joël Pommerat qui a été le grand gagnant avec 4 récompenses. Mais la cérémonie s'est ouverte sur une manifestation du collectif Décoloniser les Arts en France qui est à l'instar de plusieurs critiques de théâtre qui dénonçaient une sélection quasiment monochrome cette année, eh bien, a tenu à marquer le coup.
Oui, tout à fait. Alors, tout a commencé lorsque les nominations pour les Molières ont été dévoilées. C'était fin mars. À ce moment-là, David Bobet, qui est metteur en scène et qui dirige le Centre National Dramatique de Haute-Normandie, qui était donc appelé à voter au sein de l'Académie des Molières, à se prononcer pour ses nominations, qui a publié une lettre ouverte en indiquant, eh bien, qu'il ne voterait pas, car sur plus de 86 artistes nommés dans 19 catégories, on comptait en tout et pour tout une seule artiste qu'on dit, nous, issus de la diversité, c'était Sophia Aram dans la catégorie humour, une seule artiste racisée, écrit David Bobet, c'est-à-dire noire ou arabe ou asiatique, selon les termes donc, de David Bobet, qui fait partie de ce collectif Décoloniser les Arts en France, je vous en avais parlé, et il a été fondé il y a quelques mois, et qui a décidé d'utiliser son propre lexique pour tenter de casser les structures qui posent aujourd'hui problème à une véritable représentation de la France dans sa globalité sur les scènes, mais aussi chez les programmateurs et dans les équipes des institutions culturelles, comme nous l'explique Karima El-Raraz. Elle est auteure, metteur en scène, directrice de la compagnie à bout portant et membre de ce collectif.
les histoires qu'on porte, nous, racisés, issus de l'immigration liée à l'esclavage et aux anciennes colonies, ce sont des histoires qui ne sont pas du tout partagées. Il y a ce qu'on appelle, à décoloniser les arts, le racisme d'omission. On se retrouve toujours face à des personnes qui sont de bonne volonté, qui sont en général blanches, qui n'ont pas de lien, enfin qui pensent ne pas avoir de lien avec les histoires qu'on a envie de raconter, alors même qu'une personne blanche française est complètement reliée à l'histoire coloniale, à l'histoire de l'immigration. Ce qui fait que dans les programmations, dans les mises en scène, dans la conception qu'on a du répertoire, il y a toute une histoire complètement invisible et invisibilisée. Les Molières sont vraiment un symbole. Je pense que dans la tête de certaines personnes qui entraient dans la cérémonie, très clairement, c'est une question de mérite, de talent. Et si finalement des personnes racisées ne sont pas de l'autre côté de la barrière, c'est que c'est parce qu'elles ne le méritent pas. Et il n'y a aucune réflexion sur les structures qui font que ces personnes-là, elles n'ont aucune chance d'arriver là parce qu'il y a un certain nombre de freins.
Et le collectif a demandé, Zoé, demander un peu de transparence à l'Académie des Molières, notamment sur les modes de sélection sur la constitution de jurys équitables, selon leurs propres termes.
Ouais, alors en fait, ils demandent un travail à peu près similaire à celui qui a commencé à être entrepris, bien que ce soit très embryonnaire, sur la représentation des femmes tout court et des femmes dans la culture, puisqu'on le sait, on en a parlé ici, les chiffres sont là encore catastrophiques, et donc a déjà commencé à dialoguer avec le ministère de la Culture, comme l'explique Marine Bachelot-Nguyen. Elle est auteur, metteur en scène, et elle aussi, elle est membre du collectif.
On a demandé au ministère d'agir à leur endroit, c'est-à-dire, on s'est rendu compte, par exemple, avec le combat pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, que s'il n'y a pas de mesures incitatives, voire coercitives, s'il n'y a pas d'objectifs chiffrés de la part de l'État, du ministère ou des tutelles, en fait, les chiffres ne bougent pas ou très peu. On leur a demandé, par exemple, de produire des circulaires incitant les théâtres, les lieux culturels labellisés à agir sur cette question d'une représentation plus fidèle de la société française dans leurs équipes, dans leur programmation. On a demandé aussi à ce qu'il y ait une action au niveau de la formation, qu'il y ait des formateurs et des formatrices racisées dans les écoles de théâtre, dans les conservatoires et ainsi de suite. Des forums de réflexion, on a aussi besoin vraiment de pousser la réflexion plus loin justement sur cette question des récits, de ce qui se raconte, des esthétiques, en collaboration avec le ministère.
Voilà, alors Marine Bachelot-Nguyen et Karima Alcaraz qui soulignent toutes les deux que ce travail donc de conscience, en tout cas, a semble-t-il largement commencé à être mis en œuvre dans le cinéma. Et d'ailleurs, le Festival de Cannes qui avait lieu juste avant les Molières en témoigne, puisqu'il y a eu d'ailleurs un prix pour le film Divine, qui est urgent de le faire dans le théâtre qui reste un milieu néanmoins extrêmement conservateur. L'Académie des Molières, de toute façon, n'a pas souhaité réagir ni au courrier de David Bobet, ni aux sollicitations de la presse sur cette question.
On reste au théâtre avec les Molières côté poste de télévision.
Bah oui, puisqu'on voulait avoir les chiffres, on les aura. Et la cérémonie des Molières sur France 2 a réuni 1 200 000 téléspectateurs, soit 11% de part d'audience contre 1 400 000 l'année dernière. Mais en termes de part d'audience, la chaîne se félicite d'un record depuis que la cérémonie est diffusée en deuxième partie soirée. Ça, c'est depuis 2010. En première partie soirée, la pièce de David Fuenquinos, Le plus beau jour, diffusée en direct du théâtre Héberto, mise en scène par Anne Bourgeois, a attiré 3 300 000 spectateurs, soit près de 13,5% de part d'audience, ce qui est un très bon chiffre.
Le Grand Prix de traduction de la Société des gens de lettres a couronné mardi Éric Bourri pour l'ensemble de son œuvre et sa traduction de l'islandais.
Oui, prix doté de 6 000 euros qui lui a été attribué pour sa traduction de l'islandais. D'ailleurs, Les poissons n'ont pas de pieds de John Kalman Stefansson, édité l'an dernier par Gallimard. Outre cela, Éric Bourri a permis de faire découvrir aux lecteurs francophones beaucoup d'auteurs islandais et notamment d'auteurs islandais de polar, comme Arnaldur Indridason, que j'adore mais je ne sais jamais si je sais bien le dire, Grand Prix de la littérature policière en 2007, ou Stéphane Mani.
L'auteur Joseph Andras s'est exprimé dans l'Humanité sur son refus d'accepter le Goncourt du premier roman et aussi la plupart des interviews.
Tout à fait, puisque c'est le premier auteur à refuser un prix littéraire depuis longtemps. Joanne Andras, qui donc refuse de se faire prendre en photo et les interviews à la presse, a expliqué qu'il avait refusé ce prix pour son roman Nos frères blessés, ce prix du premier roman, car il aurait été, je cite, un frein à l'indépendance d'écriture. J'étais mal à l'aise à l'idée d'être pris sans avoir rien fait pour ça dans une course, une mise en compétition, en concurrence, alors que tout me pousse au regard de mes conceptions politiques à refuser ces notions. J'ai posé chaque mot le plus honnêtement possible, sans le moindre goût pour le Stendhal. Il me tarde seulement que nous cessions de parler de tout ça. Ping-pong.
Jake Lamar, vous qui écrivez sur notamment ces écrivains afro-américains qui ont décidé de quitter les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale pour échapper aux stigmates de leur identité de nigger, de nègre, pour être reconnus comme de simples citoyens, comme de simples écrivains. Comment est-ce que vous entendez cette polémique française autour de la décolonisation et de la représentativité plus forte que l'on souhaite dans le domaine en particulier du théâtre à propos de ces Molières et sur ce terme, vous l'écrivain, de racisation ou d'être racisé.
Oui, mais en fait, aux États-Unis, on parle de race tout le temps, hein, parce que la question est centrale dans la construction de la société depuis l'esclavage.
Donc c'est une américanisation du débat en France?
Peut-être, mais je voulais dire que aux États-Unis, il y avait un débat similaire cette année avec les nominations aux Oscars.
Hein, et le Kanye West en parlait à l'instant.
Oui, voilà. Et donc, il y a, mais au centre de problème, je pense que c'est le manque de production, c'est le manque de films créés par des réalisateurs noirs ou les rôles écrits pour des acteurs noirs. Moi, j'étais très choqué récemment quand un acteur blanc en France a gagné le rôle d'Othello. Ça, c'est presque inimaginable aux États-Unis maintenant, parce que les acteurs noirs ont besoin de grands rôles. Et ça, c'est un des meilleurs rôles, le seul rôle immense écrit par Shakespeare pour un personnage noir. En Angleterre, à Londres récemment, il y avait une production d'Othello où Othello et Iago étaient joués par des acteurs noirs. En France, il y a tout un
polémique
si on peut avoir un acteur blanc dans le rôle d'Othello.
On attend aussi la transformation inverse, hein, c'est-à-dire d'avoir un héros dont on nous dit qu'il est blond aux yeux bleus et qui est traduit autrement au cinéma, comme ça a été le cas pour le Jackie Brown de Tarantino, qui décide de prendre une héroïne de la Blaxploitation, Palm Greer.
Oui, mais je pense que souvent il y a une certaine équivalence fausse, hein, c'est-à-dire, on peut avoir un Hamlet noir, pourquoi pas un Othello blanc. Et moi, je pense que l'idée est que il y avait des Hamlet blancs depuis 400 ans. Et maintenant, dans un monde de plus en plus divers et varié, c'est important que les gens qui n'avaient pas les opportunités dans le passé de jouer des grands rôles, d'avoir leur texte présenté parmi un grand public. C'est ça le défi dans les sociétés comme les États-Unis et la France.
On a un Jésus noir. On a un Jésus noir.
On a un Jésus noir, ça tombe bien, on va l'écouter justement. Ouais.
My mama was raised in the era when clean water was only served to the fairer skin. Doing clothes, you would've thought I had help, but they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself. You see, it's broke, nigga, race him. That's that don't touch anything in the stove. And it's rich, nigga, race him. That's that come in, please buy more. What you want? A Bentley, fur coat, a diamond chain? All you blacks want all the same thing. Used to only be niggas. Everybody playing. Spending anything on Alexander Wang, new slaves. You see his leaders and his followers, but I'd rather be a dick than a swallower. You see his leaders and his followers, but I'd rather be a dick than a swallower.
Jesus, le Black Jesus dont nous parlions, c'est Kanye West. Jesus, c'est l'album qu'il a publié en 2013, le dernier en date, un nouveau paraîtra, il s'agit de La Vie de Pablo.
Il est paru.
Et ce Jesus, en fait, il va poser en une des Rolling Stones, Kanye West, avec une couronne d'épines. Le titre I'm a God enfonce les clous, si je puis me permettre. Karim Madani, dans votre livre Don Quichotte, publié chez Don Quichotte, ça s'appelle Kanye West, décidément. Vous nous dites que ce disque de Kanye West, c'est un chef-d'œuvre dont on se rendra compte peut-être 10 ans plus tard, comme un Jimi Hendrix ou un Charlie Parker. Et c'est aussi les ingé-sons qui ont travaillé dessus, les compositeurs qui vous le disent dans les nombreux entretiens que vous avez avec eux. En quoi il y a aussi un génie musical qu'on n'a peut-être pas encore assez bien appréhendé chez Kanye West?
Ouais, parce que du coup, je pense que Kanye, c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de rockstar. Et en fait, il a monté, c'est comme George Clinton, Sun Ra, ou même des gars comme Prince. C'est qu'en fait, il a jamais voulu être enfermé dans un genre musical précis. Autant les trois premiers albums, c'était vraiment du boom bap. Même s'il a renouvelé le boom bap, c'est-à-dire qu'il l'a remis à jour, et que c'était pas du boom bap poussiéreux, mais qu'il a...
Boom bap, hein, c'est grosse caisse, caisse claire.
Voilà, c'est ça.
Boom-chak, on peut dire en français.
Ouais, tout à fait, ouais, avec du sampling, donc avec des échantillons sonores pris dans d'autres disques, donc ils font partie du nouveau disque. Donc, toute cette ère du sampling. Et là, il s'est entouré de... C'est pour ça qu'il est pas si finalement mégalo que ça, parce que... Il disait qu'il n'avait pas non plus suffisamment l'oreille, encore, parce que il est né en 77, donc là il s'est entouré de plein de jeunes mecs qui ont 24, 25 ans. Lui étant né en 77, il est pas, enfin, il connaît, il sait, il écoute un peu, il s'intéresse un peu à ce qui se fait, mais il a eu besoin un peu de s'entourer de 7 mercenaires ou de 8 salopards, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais des mecs un peu plus jeunes que lui. Le tout, en fait, chapeauté par Rick Rubin, qui est quand même un producteur mythique.
Qui a été le producteur des Beastie Boys, entre autres, et qui a effectivement produit les Kanye West dans le studio.
Complètement.
Dans son studio mythique.
Ouais, dans un studio mythique.
Johnny Cash aussi. Parce
ouais, exactement. Dans une baraque qu'il avait rachetée, du coup, au bord du Pacifique. Dans une ambiance très New Age, très mystique aussi, où il y a eu des grands disques qui ont été faits là-bas. Et puis, ils sont enfermés dans ce truc, dans une espèce d'ambiance un peu... Enfin, une espèce de bunker, de panic room, où ils faisaient des... Ils faisaient des sons à la chaîne, et du coup, avec que des mecs qui avaient l'oreille, finalement, qui disaient, on veut pas faire de hit, on veut surtout pas faire de hit, on veut pas faire de musique, on veut pas faire de musique qu'on avait déjà écouté à la radio. Ils interdisaient aux mecs d'écouter de la musique des albums qui sortaient pour pas être influencés eux-mêmes. Pour dire où la parano est montée. Et l'idée, en fait, c'était de faire de la musique qui transgenre, une nouvelle musique presque.
Pour les noirs, pour les blancs, pour les hétéros, pour les homos, pour les femmes.
Ouais.
Pour
un truc, ouais, un truc robotique, cybernétique, très moderne en fait, ouais, tout à fait. Ouais.
Et pour les gens qui méfiaient Kanye West, donc moi, j'ai dit avant
l'émission, oui, nous avouez, écoutez, Jesus.
Oui, parce que moi, je n'ai pas suivi de près la musique populaire depuis les années 80, hein, sauf pour Prince, je n'étais pas très intéressé. Mais j'ai un ami aux États-Unis qui m'a envoyé le disque Jesus, et il m'a dit il faut l'écouter, et mon image de Kanye, c'était complètement inspiré par son image dans les médias avec Taylor Swift, quand il a insulté George W. Bush, Kim Kardashian et toutes ces choses qui je m'en fous, mais j'ai écouté à cet album et je pense que c'est magnifique. Et c'est un mélange de style et des influences hallucinantes. J'adore particulièrement la chanson Blood on the Leaves.
Ah, c'est aussi la préférée de Karim Madani.
Oui, où il emploie un sample de Strange Fruit, l'enregistrement de Nina Simone.
À l'origine, yeah. C'est Billie Holiday, c'est sur des lynchages ségrégationnistes dans le sud des États-Unis. Qu'est-ce que vous aimez dans ce titre? Parce que c'est aussi le préféré de Karim Madani. D'abord, Jake Lamar, et puis vous, Karim Madani.
Oui, ce qui est intéressant avec cette chanson-là, ça parle de plusieurs relations romantiques. Et dans ce sens, c'est un peu comme Tangled Up in Blue, la chanson de Bob Dylan. Mais finalement, je pense qu'il y a une histoire au centre de la chanson. C'est l'histoire d'un divorce entre un homme noir et une femme blanche. Et là, le fait qu'il a utilisé une chanson qui parle d'un lynchage, hein, la première fois où j'ai écouté à cette chanson, j'ai pensé non, ça c'est trop. Tu ne peux pas parler de lynchage et divorce interracial. Mais en fait, il fait le lien. Hein, c'est subtil la façon dont ce personnage dans la chanson est lynché par ce milieu blanc californien.
Karim Madani.
Ouais, analyse pertinente, hein, c'est vraiment parce que oui, parce qu'en fait il y a tellement de, il y a plusieurs lectures.
Un A comme à l'école américaine.
Il y a plusieurs lectures dans ce morceau en fait. C'est vrai que ça peut être aussi un truc très individuel, l'histoire d'un homme et d'une femme, après politique parce que c'est dans un très certain contexte. Et puis l'idée aussi même musicalement d'avoir placé ce sample qui est déjà à la base qui est Billie Holiday, qui a été appris par Nina Simon, mais en même temps en faisant tout le tour de la musique afro-américaine et en laissant aussi, en lui donnant aussi un virage un peu industriel rock. aussi que les Blancs peuvent comprendre.
Oui. Oh, je pense qu'il y a un sample de Nina Hagen dans une des chansons Hold My Liquor. Je pense qu'il y a un morceau de Nina Hagen.
Il n'est pas
crédité alors.
Le son de
Nina Hagen. Ouais.
Chanteuse un brin punk allemande, les amateurs.
Ouais. Ping Pong, c'est sur France Culture.
Zoé Sfez, il est l'heure du disque du jour. Mais alors, est-ce que ce sera du Nina Hagen? Est-ce que ce sera des histoires de divorce, de disputes entre hommes et femmes, comme il y a chez Kanye West, mais aussi chez Chester Himes, par exemple, qui n'avait pas toujours une grande tendresse, même s'il débordait d'amour pour ses compagnes. Voilà, de quoi s'agit-il? Ou alors d'un disque de combat?
Eh ben, c'est un disque. Alors, on ne sait pas si c'est un disque de combat. En tout cas, c'est le personnage est un petit peu comme Kanye West, un petit chien fou, mais pas tout à fait avec la même ampleur. Il est d'ailleurs complètement blond, aux yeux bleus. Il est américain. C'est notre ami Ty Segall, qui a 28 ans et déjà 10 albums à son actif, des albums de rock californien à ses débuts, assez polissons, puis de plus en plus gentillet ces derniers temps, jusqu'à ce dernier opus, Emotional Mugger, où là, carrément, il se révolte. Les guitares se font beaucoup plus grinçantes, les claviers pas si harmonieux que ça. Ça parle de la technologie, de cette addiction qu'on a tous, en tout cas les gens de son âge, à ces technologies qui nous rend tous un petit peu bébêtes. Et tout cela se savoure beaucoup mieux sur scène, et ça tombe bien puisqu'il est très bientôt en concert à Paris avec cet album. Le rock légèrement déconstruit, Ty Segall, cet extrait de son dernier album Emotional Mugger, et sachez qu'il est en concert à Paris au Cabaret Sauvage le 31 mai à 19h30 et que bien sûr vous le retrouvez chez notre partenaire le Figaroscope qui est en kiosque dès demain matin.
Merci Zoé.
Titre intéressant parce que Mugger, il me semble que c'est un
Karim Madani, donc qui est notre critique musicale.
Non, je disais, ce que je crois que c'est un dépouilleur en anglais. Un Mugger, c'est quelqu'un qui dépouille les gens.
Volume,
c'est ça, ouais.
Volume, ouais.
Dépouilleur émotionnel. Un titre intéressant, ouais. Enfin, en tout cas, le titre est pas mal. Ouais.
Jake Lamar, on est loin du jazz de Saint-Germain-des-Prés des années Baldwin. On est plus près des manoirs californiens de Kanye West. Vous êtes sensible, justement, émotionnellement à cette musique?
C'est pas mal. C'est intéressant. Je préfère le jazz de l'époque de Saint-Germain-des-Prés, franchement.
Ou le Jesus de Kanye West.
Jesus, oui, c'était l'exception pour moi. Jesus, c'est l'exception. Ouais.
Merci d'avoir transformé cette émission en critique musicale, Jake Lamar et Karim Madani. On en refera une, hein, bien sûr. Ping-pong. Bah, c'est déjà fini.
Merci beaucoup.
Et je ne sais même pas le rapper.
À tous deux, it's over. Jake Lamar, je rappelle que votre dernier roman dont on n'a pas parlé ce soir, et pourtant il est question d'une femme qui entretient une légende dont on se demande si elle est authentique, on se croirait avec un rappeur américain, et ses faits d'armes, ses postérités aux éditions Rivage. Quant à cette lecture conférence à laquelle que vous donnez vendredi, eh bien il faudra trouver un moyen de s'infiltrer dans l'ambassade des États-Unis. En tout cas, pour entendre parler de James Baldwin, c'est cette conférence conférence internationale James Baldwin qui se tient à l'Université américaine de Paris dès demain et jusqu'à samedi. Quant à vous, Karim Madani, vous êtes donc l'auteur de cette biographie cosmique extraterrestre du nom extraterrestre Kanye West, publiée chez Don Quichotte.
Et j'ajoute qu'on reparlera de James Baldwin jeudi avec Raoul Peck et Russell Banks. Ce sera dans Ping Pong à 19h. Oui, restez branchés, Jake Lamar. Le Ping Pong est un corps radiophonique qui se constitue en équipe. Et quelle équipe ! À la rédaction Aïssat Wendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau. Et la prise de son ce soir, Alex Dong et Jacques Hubert.
Et comme les fracas de Kanye West, le Ping Pong se consomme aussi sur les internets et il peut même se thésauriser précieusement pendant l'éternité et un jour sur franceculture.fr. Qu'en sera-t-il de demain, Mathilde ?
Demain, nous parlerons d'un jeune cinéma lisboète et aussi d'une comédie iranienne entre Téhéran et Brive-la-Gaillarde.
Mais tout de suite sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès, notre gangsta rappeur à nous, notre émo-thug de la comédie française.